Vous écoutez, on lit pour vous.
Les racines des tensions entre Haïti et la République dominicaine. Un texte de Jérôme Wendy Norestil, paru le 31 octobre 2023 dans le média en ligne Haïbo Post d'Haïti. Si les conflits diplomatiques persistent, l'île entière est sous la menace de défis de taille. Un récent rapport des Nations unies révèle que des groupes de gangs haïtiens font appel à des trafiquants dominicains pour se procurer armes à feu et munitions, illustrant ainsi la relation complexe entre les deux pays voisins sur fond d'histoire commune et de défis partagés. Au-delà des différences, les deux pays maintiennent une tradition de relations forgée sur l'aide mutuelle contre l'esclavage et la colonisation, ainsi que l'entraide. Ils ont également en commun des défis environnementaux, sécuritaires ou migratoires. Les relations entre les deux parties de l'île remontent avant la Révolution de 1804. Toussaint Louverture, dans une visée unificatrice, a envahi Santo Domingo au début de janvier 1801, à la tête d'une armée de 25 000 hommes afin d'annexer la partie orientale de l'île, alors sous contrôle espagnol. Le 22 janvier 1801, les troupes espagnoles se rendent puis remettent le contrôle de la capitale le 27 janvier, ce qui fait de Toussaint le chef de l'île entière. Lorsque les forces françaises désertent la colonie de Saint-Domingue, après leur défaite contre l'armée indigène, en novembre 1803, cela laisse entendre que l'indépendance est proclamée sur toute l'île. Cependant, la partie orientale était toujours occupée par les Français jusqu'en juillet 1809. La résistance française a défié les efforts de Jean-Jacques Dessalines pour récupérer l'autre moitié de l'île. Après avoir été sous le contrôle des Français, la partie orientale redevient une colonie espagnole de 1809 à 1821, avec la pleine volonté des Dominicains, voulant aussi se débarrasser des Français. En 1822, lorsque le président, Jean-Pierre Boyer, répond à l'appel des patriotes dominicains en se présentant à nouveau à Santo Domingo, il reçoit les clés de la capitale sans le moindre coup de feu. Ainsi, Haïti va occuper cette partie de l'île de 1822 à 1844. Les Haïtiens sont venus apporter la bonne parole aux Dominicains en leur apprenant à être libres de toute tutelle européenne et particulièrement en abolissant deux fois l'esclavage dans cette partie du territoire, évoque Haïbo Post, le géographe et spécialiste d'Haïti et de la République dominicaine, Jean-Marie Théoda. De 1844 à 1856, suivra une série de campagnes menées par les Haïtiens en vue de reconquérir la République dominicaine qui avait déjà proclamé son indépendance vis-à-vis d'Haïti. Les Dominicains vont considérer ces velléités comme des menaces, jusqu'à la signature d'un traité de paix, d'amitié, de commerce et de navigation entre les deux pays en juillet 1867. Toutefois, lors de la guerre de la Restauration, entre 1863 et 1865, opposant les indépendantistes dominicains à l'Espagne, l'aide des Haïtiens a été indispensable, fondamentale dans ce projet de reconquête de l'indépendance, reconnaît Edwin Paraison, ancien consul d'Haïti en République dominicaine. Au cours de cette période, les insurgés dominicains ont bénéficié du support du président Fabre Nicolas Geffrard avec des troupes, des armes et des munitions. En 1871, le gouvernement du président Buenaventura Báez a sollicité l'annexion de la RD aux États-Unis d'Amérique, ce qui aurait transformé ce pays en un État de l'Union. Le projet constituait, du coup, un danger pour l'indépendance haïtienne. C'est l'insistance des Haïtiens pour condamner l'attitude du dictateur qui va faire échouer le plan, précise le maître de conférence à l'Université Paris, Panthéon-Sorbonne, Jean-Marie Théodat. En septembre 1930, une grande empathie haïtienne s'est manifestée après le passage du violent ouragan San Zenon, laissant plus d'un millier de morts et de blessés en République dominicaine, sans compter de pertes économiques. Les Haïtiens ont été les premiers à porter secours à l'État voisin par le biais du gouvernement de Louis-Eugène Roy. Un montant spécial de 100 000 gourdes fut voté par le gouvernement en vue de financer l'aide d'urgence. Des collectes de fonds furent organisées pour recueillir l'argent nécessaire. Le gouvernement envoya également des médecins, des infirmières, des ingénieurs, ainsi que des matériaux afin de réparer le pont reliant Santo Domingo et le reste du pays. La Croix-Rouge haïtienne s'est mise en branle, ainsi que d'autres organisations, pour collecter des vêtements, des provisions alimentaires, pour ensuite les acheminer par bateau vers la République dominicaine. Cet important geste d'entraide fut vivement salué par le président Trujillo le 8 septembre 1930. Lors du violent séisme de 2010, le gouvernement dominicain d'alors est venu aider Haïti avec non seulement des médicaments, de la nourriture, mais le don du campus de limonade, inauguré en 2012. Lors de la guerre d'avril 1965, en réaction au débarquement d'envahisseurs américains en RD, un groupe composé d'une cinquantaine d'Haïtiens, qui, pour la plupart, fuyaient la dictature de Duvalier en Haïti, se sont combattus aux côtés des patriotes dominicains. Parmi eux, l'histoire retiendra les noms de Fred Baptiste, Jacques Viau, qui dirigeait deux commandos, ainsi que Lionel Vieux. Si l'île est séparée par une frontière terrestre et une différence linguistique, cela n'empêche pas l'existence de similitudes historiques et culturelles entre les deux peuples. Dans son ouvrage « Atlas folklorico de la República Dominicana », le sociologue et folkloriste dominicain Dagoberto Tejeda Ortiz catégorise les esprits du panthéon vaudou dominicain en 21 divisions, se regroupant en Legba, Gede, Rada, Ogun, India et Petro. Une réalité qui ne diffère guère du vaudou haïtien, où elles sont connues sous l'appellation de 21 Nanchon, faisant référence aux 21 tribus d'origine des anciens esclaves africains dans la colonie de Saint-Domingue au 19e siècle. Toutefois, au cours du 20e siècle, s'est cristallisée une haine du côté dominicain vis-à-vis des Haïtiens. Kessler Bien-Aimé, sociologue, ayant travaillé sur la question du patrimoine des deux côtés de l'île, observe que les Dominicains basent leur identité sur un nationalisme colonial. Ainsi, selon le docteur Bien-Aimé, les Dominicains se sont rattachés aux colons et se démarquent avec un nationalisme interne. Ce qui est caractérisé par un anti-haïtianisme et un déni de toute appartenance à l'Afrique. Une orientation qui se base essentiellement sur une idéologie raciste, pense la cinéaste Rachel Magloire. Aussi, les Dominicains se placent à l'opposé des Haïtiens parce qu'ils les identifient à l'Afrique, poursuit la cinéaste. Vous écoutez Les racines des tensions entre Haïti et la République dominicaine. Un texte de Jérôme Wendy Norestil, paru le 31 octobre 2023 dans le média en ligne Haïbo Post d'Haïti. Pour le prêtre jésuite Osvaldo Concepcion, du point de vue historique, les deux pays ont choisi deux projets politiques différents. D'un côté, celui de la République d'Haïti était la construction d'un État de liberté pour les anciens esclaves. Pour la République dominicaine, il n'y avait pas ce projet d'avoir une République. Dans son ouvrage « Race and Politics in the Dominican Republic », le professeur d'études ethniques du Colorado State University, Ernesto Sagas, précise que le peuple dominicain laisse essentiellement de côté les mots « noir » et « mulâtre » de leur vocabulaire pour les remplacer par le terme « indio », moins traumatisant et socialement acceptable, justifiant aussi leur descendance hispanique et indienne. Pour comprendre la façon dont les Dominicains revendiquent leur appartenance, il faut aussi observer l'exposition de leur patrimoine à travers leur scénographie urbaine, disent des spécialistes. Alors que plusieurs pays de l'Amérique latine rejettent le personnage de Christophe Colomb, eux, ils le vénèrent. Ce personnage a, entre autres, initié deux des plus grands crimes de l'hémisphère occidental, le génocide brutal des Indiens et l'horrible commerce triangulaire. C'est ainsi qu'en 1986, sous la gouvernance de Joaquín Balaguer, les autorités dominicaines vont entamer l'édification du monument Faro a Colón, en mémoire de Christophe Colomb, à Santo Domingo. C'est un projet initié par le dictateur Rafael Trujillo. Ce chef d'État porte par ailleurs la responsabilité du massacre d'épuration ethnique de 1937. Jusqu'à 35 000 Haïtiens ont été tués par les Dominicains. Il s'agit d'un gigantesque phare couplé d'un mausolée de 210 mètres de long et de 59 mètres de large, estimé à 70 millions de dollars américains. Ce projet a été jugé obscène par des Dominicains à l'époque. Cependant, en Haïti, après la chute du dictateur Jean-Claude Duvalier en 1986, la statue de Christophe Colomb, au bicentenaire, a été violemment déboulonnée. Le fonctionnement de l'économie insulaire entraîne un drainage considérable de la main-d'œuvre haïtienne vers la République voisine dès la fin du 19e siècle pour travailler dans les batailles. En 1992, le sociologue Wilfredo Lozano évalue la quantité de travailleurs haïtiens évoluant dans l'agriculture entre 60 900 à 197 900. Aujourd'hui, la canne à sucre cesse d'être le pilier de l'économie dominicaine, au profit de secteurs plus lucratifs tels que le tourisme, la construction, la culture des agrumes, du riz, du café, etc. Dans une étude menée par Instituto Nacional de Migración, INM, de la République dominicaine en 2020, sur l'estimation de la demande des travailleurs étrangers dans les secteurs de la construction et de l'agriculture, les ouvriers haïtiens étaient au nombre de 88 264 dans le secteur de la construction, soit 29,21% du total des ouvriers. Avec 111 867 travailleurs, 28,15% des employés du secteur agricole et de l'élevage sont haïtiens, tandis qu'ils représentent 9,54% dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. En 2022, selon les données du Centro de Exportación et Inversión de la República Dominicana, Pro-Dominicana, Haïti représente le deuxième partenaire d'exportation de la République dominicaine avec 1040 millions de dollars US dans des produits manufacturés, biens intermédiaires, alimentaires, cimenterie, charcuterie, etc. Ce qui fait qu'Haïti demeure un marché vital pour l'économie dominicaine. Par ailleurs, à cause de l'insécurité, des milliers d'Haïtiens, parmi eux des artistes, ont traversé la frontière ces dernières années. Ils vivent en République voisine et y investissent leur argent. Des Dominicains travaillent aussi en Haïti dans certaines industries, comme la construction. De 2020 à 2021, les universités dominicaines reçoivent 105 021 étudiants haïtiens, selon les écrits du ministère de l'Éducation de la RD, ce qui place Haïti en tête de la liste des pays ayant le plus grand nombre d'étudiants en territoire voisin. Des femmes d'Haïti se rendent aussi en RD pour recevoir des soins médicaux. Ce sujet se trouve instrumentalisé régulièrement par la droite dominicaine. Si les conflits diplomatiques persistent, l'île entière est sous la menace de défis de taille, tels que le changement climatique, l'exploitation minière, la corruption, l'insécurité, etc. Dans le récent rapport d'un groupe d'experts de l'ONU mentionnant les actions criminelles de diverses personnalités en Haïti, il est fait mention de la République dominicaine comme faisant partie de l'itinéraire du trafic illicite d'armes à feu en provenance des États-Unis. Selon ce rapport, une grande partie du trafic passe sous les radars, ce qui révèle la dimension transnationale de la question sécuritaire sur l'île entière. Sur le plan culturel, il y a des échanges assez dynamiques entre les deux peuples. Au cours des années 1990, jusqu'au début des années 2000, Haïti participait au carnaval dominicain avec des chars allégoriques. Mais cela n'existe plus depuis quelques années, regrette Edwin Paraison. Il y a également des collaborations artistiques entre des artistes des deux côtés de l'île. Edwin Paraison est coordonnateur de la Fundación Zile, un organisme binational œuvrant dans la coopération entre les deux parties de l'île et qui a initié en 2011 la Semaine de la diaspora. Ce rendez-vous de convivialité entre les deux peuples se concentre autour d'une vingtaine d'activités dans les domaines tels que le sport, la culture, l'éducation, etc. L'association haïtienne Sol Sain opère dans le domaine culturel depuis 2015. À travers des initiatives telles que rencontres de création haïtiano-dominicaine, base binationale de données artistiques et culturelles, son directeur artistique, Daphné Ménard, entend créer une ouverture entre le secteur culturel haïtien et dominicain. L'association Caracoli, fondée en 2007, travaillant dans le milieu culturel haïtien, entreprend également des initiatives de renforcement des capacités, d'encadrement d'organisations culturelles, ainsi que le dialogue binational afin de mettre en évidence les similarités de l'île. L'idée de départ, c'est de mettre en évidence les choses qui nous rassemblent, parce que l'actualité est toujours orientée vers les divergences entre Haïti et la République dominicaine, relate Pascale Jaunet, directrice de l'association. Ce projet de dialogue veut construire des liens entre des artistes de l'île. Il veut mettre en place une base de données binationale, des échanges de presse, etc. Pour sa directrice, Pascale Jaunet, l'idée, c'est de mettre la culture au centre des relations. Malgré la détérioration des rapports entre les deux pays ces dernières années, la réalité insulaire oblige des deux côtés de faire tous les efforts possibles afin de préserver la bonne convivialité, encourage Edwin Paraison. si la complémentarité entre les deux économies profite essentiellement à la République dominicaine, le géographe Jean-Marie Théoda soutient qu'il faut réorienter les relations entre les deux États dans un sens plus apaisé et réciproque. Smith Augustin, ancien ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, pour sa part, pense qu'il ne s'agit pas de rompre les liens, mais de les préserver tout en défendant les intérêts d'Haïti. C'était « Les racines des tensions entre Haïti et la République dominicaine », un texte de Jérôme Wendy Norestil, paru le 31 octobre 2023 dans le média en ligne Haïbo Post d'Haïti.
La police pourrait mettre le nez plus facilement dans votre vie privée. Un texte de Stéphanie Marin et Boris Proux-Corriveau, paru le 20 août 2025 dans Le Devoir. Voulant s'attaquer aux crimes sur Internet et y traquer les cyberpédophiles, un récent projet de loi du gouvernement Carney pourrait toutefois aller beaucoup plus loin en facilitant considérablement la collecte de données personnelles des Canadiens par les policiers, ce qui fait sourciller des avocats spécialisés en protection de la vie privée. Une partie du projet de loi C2 déposé en juin 2025 vise à autoriser clairement le droit des services policiers et de renseignement à utiliser les signalements de pédopornographie fournis par les plateformes web et de localiser sans mandat où se trouve l'appareil électronique lié au signalement. Mais la façon dont le projet de loi est rédigé permettrait aussi aux forces de l'ordre d'obtenir une foule d'informations détenues non seulement par les plateformes web et les fournisseurs d'Internet, mais aussi par toute autre entreprise au sujet de ses abonnés, dès que ces derniers sont suspectés d'une infraction à une loi fédérale. Ce détail est noyé dans la 14e partie d'un texte de 140 pages intitulé « Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d'autres mesures connexes liées à la sécurité ». Le gouvernement l'a surtout présenté comme un resserrement des règles d'immigration dans un contexte où le gouvernement américain de Donald Trump blâme le Canada pour le trafic de fentanyl. Or, le gouvernement Carney a inséré dans ce projet de loi omnibus d'autres mesures qui n'ont aucun rapport avec la frontière ni avec le fentanyl afin de faciliter le travail des policiers de manière générale en leur octroyant des moyens technologiques dans un monde où le crime ne connaît plus de frontières. Ces mesures risquent d'effriter les murs qui protègent les données privées des Canadiens, avancent des experts. Traquer des pédophiles. À la base, le gouvernement avait l'intention de faciliter le travail ardu des forces de l'ordre pour combattre le crime sur Internet. Celles-ci demandaient par exemple de consulter sans contrainte les signalements de pornographie juvénile transmis par les plateformes web américaines qui ont détecté des photos ou des vidéos d'agressions d'enfants. Une récente affaire criminelle au Québec a révélé que les policiers travaillaient déjà de cette façon. Tous les signalements de présumés cyberpédophiles générés par l'intelligence artificielle des plateformes en ligne sont même conservés 100 ans par la GRC. La lutte contre le fléau des agressions d'enfants diffusées en ligne justifie cette façon de procéder, a tranché la juge dans cette affaire. Ce privilège avait été remis en doute par un récent jugement de la Cour suprême qui concluait en 2024 qu'un juge aurait dû approuver l'obtention de renseignements personnels, comme l'adresse IP attribuée à chaque appareil connecté à Internet d'un présumé fraudeur en ligne nommé André Bikovets. Le projet de loi vient préciser noir sur blanc que les agents peuvent sauter cette étape. Ainsi, C2 donne certes ses pouvoirs demandés par les policiers pour lutter contre la pornographie juvénile en ligne, mais le texte va bien, bien au-delà de ce qui est nécessaire pour répondre à leurs demandes, souligne David Fraser, avocat spécialisé en droit du web et protection de la vie privée, qui travaille au sein du cabinet McInnes Cooper. Pas que des cybercriminels. S'il est adopté, le projet de loi permettra concrètement à la police, mais aussi au service canadien du renseignement de sécurité et à tout fonctionnaire public chargé d'appliquer une loi, d'obtenir sans mandat de quiconque fournit des services au public des informations de base sur un de ses clients ou abonnés. Par une simple demande, les autorités pourraient savoir par exemple quels services ont été rendus aux suspects, à quelle date et dans quel endroit, jusqu'à l'identité de tout autre fournisseur qui offre des services à la personne faisant l'objet d'une enquête. Comme cela est prévu dans C2, les nouveaux pouvoirs ne seraient donc pas limités à la lutte contre le cybercrime, fait remarquer Maître Fraser. Ils pourraient en théorie être utilisés pour toute infraction au code criminel ou à n'importe quelle loi fédérale, qu'il s'agisse de la loi sur les pêches ou le règlement sur le camping dans les parcs nationaux du Canada. Si vous campez à l'extérieur des espaces désignés, vous avez commis une infraction, explique l'expert. Bref, toute entreprise qui fournit des services au public y serait théoriquement soumise. Si ce projet de loi C2 devait être adopté, des experts avancent que même des hôtels, des entreprises de location de voitures et des cliniques d'avortement pourraient devoir donner à la police certaines informations de base sur des clients ou des abonnés si on le leur demandait. Pour les démarches d'enquête plus poussées, les policiers devraient encore se présenter devant un juge. Cela deviendrait beaucoup plus facile puisqu'il ne serait plus nécessaire de démontrer qu'une infraction a été commise, mais seulement qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'une infraction sera commise et que les renseignements seront utiles à l'enquête sur une infraction. C'est un seuil très très bas. C'est juste au-dessus du niveau « avoir une intuition », explique Maître Fraser, qui croit que certaines dispositions de C2 ne résisteront pas à une contestation constitutionnelle devant les tribunaux. Chaque fois que nos droits sont érodés, cela a un effet cumulatif. C2 sera sous la loupe. En matière de cybercriminalité, la loi viendrait explicitement forcer la collaboration, jusqu'ici volontaire, des fournisseurs Internet en les obligeant à dévoiler sans mandat la municipalité où est situé un internaute suspect. Cela change tout du point de vue juridique, souligne l'énoncé concernant la charte, qui est une analyse de la constitutionnalité du projet de loi rédigé par le ministère de la Justice. Comme ce pouvoir permettrait à la police d'obtenir des renseignements liés à une personne, il pourrait être perçu comme ayant des effets en vertu de l'article 8 de la Charte. Le ministère fait toutefois valoir que la vie privée des citoyens est protégée du fait que le contenu des communications ne serait pas transmis aux policiers. Ces deux permettraient finalement aux forces de l'ordre de demander à des entreprises étrangères qui offrent des services de télécommunications des informations sur des abonnés canadiens. Il s'agit d'une expansion importante des pouvoirs policiers au Canada, en étendant leur pouvoir juridictionnel, probablement au-delà des frontières, écrit le cabinet d'avocats McCarthy Tétrault dans une analyse mise en ligne. Le ministre de la Sécurité publique, Gary Ananda Sangare, a expliqué en chambre que cette partie du projet de loi simplifierait la collecte de données. C2 est encore à l'étape de la deuxième lecture au Parlement et doit encore être scruté par un comité parlementaire et voté en bonne et due forme avant de devenir une loi. C'était « La police pourrait mettre le nez plus facilement dans votre vie privée », un texte de Stéphanie Marin et Boris Proulx-Corriveau, paru le 20 août 2025 dans Le Devoir.